Bonjour à toutes et à tous, et bien c'est l'heure de l'Opus Festival depuis l'hôtel Le Maréchal de Colmar. Générique.
Opus, Festival international de musique de Colmar. Hommage à Claudio Abbado. Une émission d'Accent 4 avec le soutien du CIC Est, d'Arpège Armand Meyer et de l'hôtel Le Maréchal de Colmar.
Aujourd'hui, jeudi 4 juillet, deuxième journal du festival, et j'ai le plaisir de recevoir Rani Calderon, pianiste, chef d'orchestre et compositeur, et l'ami Jean-Jacques Grolot, auteur du livre-programme de cette 31e édition du festival de Colmar. Bonjour à vous.
Bonjour.
Aujourd'hui, 4 juillet, eh bien, coup d'envoi de ce festival de Colmar avec un concert à 21h. Alexander Romanowski sera le soliste du 5e concerto pour piano de Beethoven. Et il aura pour complice eh bien, les musiciens de l'Orchestre National Philharmonique de Russie que vous dirigerez vous demain, Rani Calderon. Et ce soir, ce sera donc Vladimir Spivakov, le directeur artistique du festival et le directeur de cet orchestre, qui dirigera en deuxième partie la 7e symphonie en la majeure de Beethoven. Rani Calderon, vous, ce sera demain à 21h, vous dirigerez ce même orchestre dans des œuvres de vous-même, de Mozart et de Debussy.
Thank you.
Fête, extrait des Nocturnes de Claude Debussy. Claudio Abbado était à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, un enregistrement de 1999. Le chœur n'apparaît que dans Sirène, le dernier des Nocturnes. Rani Calderon, vous dirigerez donc demain soir ces Nocturnes et la mère de Claude Debussy. Comment entendez-vous cette interprétation de Claudio Abbado ?
Abbado, je pense que ce qui le caractérise, c'est un vrai chef européen. C'est-à-dire, si vous regardez aussi la carrière qu'il a fait, c'est le seul qui a été directeur musical à la Scala, à Vienne et à Berlin. Même pas Karajan l'a fait. Je pense que ça dit beaucoup de lui, c'est-à-dire probablement aussi l'expérience qu'il a fait dans ses postes, mais je pense que c'est aussi sa disposition. C'est quelqu'un qui était, de ce que j'ai entendu et de ce qu'on peut sentir dans ses interprétations, extrêmement ouvert, extrêmement humain. Et il était dans l'esprit de rassembler les gens. Et il a pris un peu de tout, de toutes les cultures, comme certains compositeurs. Et pour moi, notamment Wagner, qui, avec tout le côté germanique qu'il a, on ne peut pas éviter à sentir la beauté française de sa musique et la passion italienne. Je pense que chez Abbado, c'est un peu la même chose. Il y a une finesse, il y a une passion, et il y a une structure, c'est-à-dire du français, de l'italien, de l'allemand.
Ce goût de rassembler, vous le possédez aussi. On sait que Claudio Abbado a fait beaucoup pour créer des orchestres, mais aussi pour rassembler des jeunes musiciens.
C'est vrai, oui. Moi, en fait, je me suis souvenu il y a quelques jours que je l'ai vu en Israël quand il est venu diriger la Philharmonique d'Israël. Et j'ai assisté au concert depuis les sièges qui sont devant le chef. Il a dirigé Kindertotenlieder et la cinquième de Beethoven, si je ne me trompe pas. Mais ce qui était plus impressionnant pour moi, c'est la répétition qu'il a fait avec le jeune orchestre philharmonique. Et je me souviens, il répétait Roméo et Juliette de Tchaïkovski. Et je me souviens la façon dont il parlait avec les jeunes musiciens, et notamment à un moment où il s'est mis à rire d'un coup d'archet qui lui semblait rien à voir avec le style de la musique, mais la façon dont il a corrigé, la façon dont il a expliqué comment il fallait le faire, c'était vraiment très très bienveillant. Voilà.
Jean-Jacques, ces Nocturnes et plus particulièrement ce deuxième mouvement, en fait, c'est en écoutant ce mouvement que Claudio Abbado a décidé de consacrer sa vie à la direction d'orchestre.
Ben oui, j'ai découvert ça effectivement en travaillant sur la vie de Claudio Abbado. Je me suis rendu compte qu'en 1940, le tout premier concert auquel il assiste grâce à son grand frère, qu'il a amené, je dirais pas de force, parce que quand même il aimait déjà la musique, ses parents, ses grands-parents adoraient la musique, mais le premier vrai choc esthétique qu'il a dans une salle de concert, c'est ses Fêtes de Debussy. Donc c'est évidemment doublement intéressant de pouvoir vous entendre là-dedans aussi, dans ce festival hommage à Abbado. Et donc ensuite, oui, voilà, il a gardé une passion pour Debussy qui ne s'est jamais démentie jusqu'à la fin de sa vie. Tous ces disques en témoignent.
On aura peut-être l'occasion d'en parler. Il a fait découvrir Debussy à l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Même si Debussy était joué par Karajan.
Mais pas pareil, oui, c'est vrai.
On parlera probablement de la musique de Debussy, puisque hors micro, vous teniez des propos extrêmement intéressants. Et vous, Rani, quelle était l'œuvre qui vous a incité à devenir chef d'orchestre ?
Alors moi, j'ai un souvenir très très clair. J'avais 14 ans. Et à l'époque, je m'intéressais pour la symphonie de Beethoven, comme ça, en tant que musicien, j'étais pianiste. Et j'avais un enregistrement d'un chef très célèbre, que je ne vais pas nommer, de la première symphonie, et j'adorais cette symphonie. J'ai pris la partition, mais je ne la lisais pas pour devenir chef d'orchestre, ça m'intéressait simplement en tant que musicien. Et du coup, au lycée où j'étudiais, il y avait quelqu'un qui est décédé, qui a laissé sa collection de LP au lycée. Moi, je suis descendu, regardais ce qu'il y en avait, et je voyais un coffret énorme comme ça, avec une image de quelqu'un très austère, en blanc-noir, et il a été écrit « Beethoven, les 9 symphonies, Bruno Walter ». Ça ne me disait rien, je ne connaissais pas du tout ce chef. Et j'ai pris l'enregistrement, et j'ai écouté la première symphonie que je connaissais déjà assez bien. Et c'était pour moi le choc total. Vraiment le choc, l'illumination, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la révélation, parce qu'à la fois c'était très transparent, c'est-à-dire je pouvais lire la partition en écoutant l'enregistrement, tellement c'était clair. Et en même temps, il y avait une souplesse et une flexibilité d'interprétation, une chaleur, des choses qu'on n'oserait même pas faire aujourd'hui, même plus malheureusement faire aujourd'hui, parce que c'est une autre époque. Mais ça m'a tellement impressionné que je me suis dit tout de suite, je voudrais faire ça. Et Bruno Walter est toujours resté pour moi un grand modèle, naturellement pas pour tout le répertoire, mais comme je suis quand même quelqu'un de très classique, ça reste toujours pour moi un personnage extraordinaire.
Et Bruno Walter, Claudio Abbado, était dans les chœurs de Vienne pour le dernier Requiem de Mozart sous la direction de Bruno Walter. Tu peux confirmer, Jean-Jacques ?
Oui, quand il faisait ses études justement là-bas, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, cette volonté de travailler, de faire de la musique ensemble, il l'avait, puisque lui-même a toujours essayé de participer, de faire de la musique, non pas simplement en tant que chef. Et donc, quand il était à Vienne, il participait à toute la musique de chambre qu'il pouvait faire, et aussi, ce qu'on sait moins, au chœur. Et donc, il a pu travailler comme ça avec différents chefs, dont effectivement Bruno Walter. Et c'est assez émouvant de voir ce grand homme comme ça, qui a surtout jeune évidemment, mais toujours essayer d'être au milieu de l'écoute, écouter ses collègues, écouter ses instrumentistes, et voilà, ça vient de très loin.
Et puis Bruno Walter était aussi un humaniste, oui, comme Claudio Abbado, s'adressant à ses musiciens en leur disant « mes amis
». Oui, voilà. Et puis quand vous écoutez les enregistrements des répétitions de Walter, la chose qui frappe, c'est qu'il demande tout le temps que l'orchestre chante. Il dit ça tout le temps. Et je pense que c'est la qualité quand vous écoutez ces enregistrements. Vraiment, on a l'impression que l'orchestre chante. Et voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Est-ce que ce chant, ce cantabile, n'est pas dû au fait que ces chefs, comme Claudio Abbado, ou comme vous-même, Annie, vous êtes aussi un chef lyrique?
Oui, moi j'en suis convaincu. Et je pense que, vous savez, il faut aller en arrière et comprendre ou réfléchir un peu d'où vient le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, au départ, c'était le compositeur. C'est-à-dire, la chose la plus naturelle à l'époque était que vous écriviez de la musique et que vous prépariez l'interprétation et le concert. Il n'y avait pas de distinction entre les deux choses. Après, bien sûr, petit à petit, c'est devenu une profession importante. Mais j'ai toujours pensé, c'est aussi ma formation, mon éducation, disons, qu'en tant que chef, on est à la place du compositeur et on a la responsabilité, quand on travaille avec les chanteurs, quand on travaille avec l'orchestre, avec le chœur, il faut représenter l'intérêt du compositeur, ce qui n'est pas toujours facile parce que les interprètes, avec toute justification, ont parfois des intérêts différents. Et il faut savoir réconcilier tout ça. Et c'est vrai que je l'ai dit par rapport à votre question, parce que l'idée de la séparation entre chef lyrique et chef symphonique est aussi une chose relativement récente. C'est-à-dire, je pense que peut-être le premier chef, grand chef, qui n'était pas du tout un chef lyrique, c'est Chilibidac. Je ne sais pas si, disons, si on va... Parce qu'avant, moi, je n'arrive pas à penser à quelqu'un qui ne faisait pas les deux choses. Après, aujourd'hui, on vit aussi dans une époque où il y a vraiment la spécialisation dans tout. Et puis, il y avait des chefs, et notamment des Italiens, comme Tullio Serafin, par exemple, qui dirigeait un peu du répertoire symphonique, mais ça, on n'a pas besoin de ça pour savoir que c'était un des plus grands chefs lyriques de l'histoire. Et moi, j'ai eu la grande chance d'avoir étudié l'opéra, et notamment l'opéra italien, avec quelqu'un qui avait été son assistant. Alors, pour moi, Tullio Serafin, c'est un dieu. Et c'est quelqu'un qui dirigeait pratiquement que l'opéra. Je pense, et c'est important de le préciser, que d'un côté, on peut être un merveilleux chef symphonique et uniquement symphonique, ou bien uniquement lyrique, et faire de façon fantastique ça, comme vous pouvez avoir un répertoire, par exemple, limité. Si vous le jouez bien, si vous le dirigez bien, moi, ça m'est égal. Mais, de mon expérience personnelle, je peux vous dire que si vous avez l'approche et l'intimité avec ces deux mondes qui sont des mondes différents, il faut se consacrer du temps à les connaître, et de point de vue musical et de point de vue aussi pratique, parce que diriger une symphonie ou une œuvre symphonique, ce n'est pas du tout comme diriger un spectacle d'opéra, et ce n'est pas du tout la même préparation. Si vous avez les deux, et si vous êtes à l'aise dans les deux, pas parce que vous voulez profiter de faire une carrière plus importante, mais parce que c'est vraiment votre sensibilité, je dirais que les choses qu'on peut apporter d'une à l'autre, c'est d'un côté le travail symphonique, c'est-à-dire les détails, les couleurs de l'orchestre vers l'opéra, et depuis l'opéra à la salle de concert, c'est le sens du drame. Le drame existe toujours partout dans la musique. La musique, même une musique, c'est-à-dire écrite par un génie, qui n'a pas de drame, c'est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire, alors, elle n'a pas de drame, mais c'est aussi du contenu. C'est pas parce qu'elle est privée du drame. C'est quelque chose de voulu.
Puis ça demande aussi un sens peut-être plus aigu de l'écoute lorsqu'on est un chef lyrique.
Oui, je dirais, oui, tout à fait. Et puis, disons qu'à l'opéra, tout peut se passer à n'importe quel moment. C'est ça peut-être la différence. C'est-à-dire, le chef lyrique, la voix déjà, c'est un instrument plus compliqué. Les chanteurs sont en train de jouer. Ils ne sont pas avec la partition. Ils bougent. Alors, ils ont beaucoup de contraintes, et le chœur notamment. Le chœur, peut-être, c'est l'élément le plus fragile dans l'opéra. Alors oui, vous devenez... après, l'écoute, c'est-à-dire un musicien symphonique, il a aussi un autre type d'écoute. Mais c'est vrai que les deux pourraient être complémentaires et on pourrait énormément profiter des deux mondes.
Et Abbado demandait toujours à ses musiciens, il pouvait passer éventuellement sur une petite erreur, mais il insistait, écoutez-vous.
Oui, c'est vrai que, vous savez, pour les musiciens, et je le dis en tant que musicien aussi, on se rend compte avec le temps, avec l'âge, c'est qu'on peut jamais assez écouter. Moi, je dirais, c'est peut-être... Parce que écouter, c'est un terme qui peut aller tellement loin. Qu'est-ce que c'est que écouter soi-même? Vous savez, quand on parle de point de vue philosophique ou spirituel, c'est une chose tellement profonde d'arriver dans la vie quand il vous faut prendre une décision importante. Et on vous dit, mais écoute-toi. C'est parfois la chose la plus difficile à faire. Et le musicien, on y travaille toute la vie. Et je pense que ça dépend de beaucoup de facteurs. Il s'agit de ça.
On va écouter Claudio Abbado dans un extrait de Rigoletto. Vous avez sans doute compris déjà pourquoi.
Ah, oui.
Ce sera l'objet de la deuxième partie. On écoute.
Celestine, divine, 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 div
Un extrait de Rigoletto de Verdi sous la direction de Claudio Abbado, ses solistes Marcello Alvarez et Christine Schaeffer. Jean-Jacques, Rigoletto est un opéra que Claudio Abbado n'a jamais enregistré. D'ailleurs, il n'a pas fait l'intégrale des opéras de Verdi ou d'autres compositeurs.
Non, il n'a pas fait d'intégrale. Ça peut aussi correspondre un petit peu à cet esprit très humaniste qui allait papillonner au bon sens du terme un peu partout plutôt que d'aller au sens alors très allemand et 19e-iste du terme chercher à faire l'intégralité d'une seule et même chose. Mais pour le coup, il a quand même dirigé énormément et vous en avez trouvé quelques extraits là d'opéras italiens. Les opéras qu'il a, enfin pour moi, ce qu'il a le plus marqué de son empreinte, c'est aussi et surtout les opéras russes, en fait, presque paradoxalement, même parce que Sacconcina et Boris, d'une certaine manière, ont marqué l'histoire parce que surtout pour Boris, il a été à mon sens le premier à vraiment respecter la partition originale de Moussorgski. Même si il y avait des partitions un peu, on va dire, bâtardes par le passé, mais voilà, il a été le premier à faire ça. Et pareil aussi, je sais qu'il y a un des concerts, je ne sais plus très bien quel soir, mais avec La Nuit sur le Mont Chauve et la version avec cœur. Voilà, et ça, lui aussi, il a été le premier à essayer de la réimposer partout. Là, une chose intéressante, on discutait un petit peu en même temps que nous écoutions cet extrait, mais j'ai remarqué qu'il ne leur demande pas de faire il leur interdit, je suis sûr même, de faire le suraigu à la fin du duo, alors que tout le monde le fait. Donc voilà, ça, c'est aussi Claudio Abbado, quoi, un vrai respect de la partition, en essayant de se débarrasser des mauvaises habitudes interprétatives.
Enfin, ouais, comme outil, par exemple, ouais. Aussi. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de Puccini, vous parliez de la finesse de l'écriture de Tosca, qui est un de ses chefs-d'œuvre. Il est curieux que Abbado ne se soit jamais intéressé à cette musique de Puccini.
Oui, alors là, pour le coup, vous me posez une colle. Je ne sais pas.
On voilà une.
Oui, on voilà une. Je me doutais que vous alliez m'avoir. Non, c'est d'autant plus bizarre que Claudio Abbado avait vraiment ce goût de la passion, du chant. Et donc, on ne peut pas dire, enfin, du moins, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il était insensible à cet art-là, bien au contraire. Donc oui, pourquoi cette presque impasse, je ne saurais pas dire, peut-être vous, maestro.
Mais moi, je pense peut-être, c'est-à-dire si on regarde ceux qui l'ont dirigé, et si on pense par exemple à Mahler, à Debussy, c'est peut-être Puccini n'entrait pas dans le rassemblement général du répertoire qu'il avait. Après, il y a aussi une limitation de temps. Et même Verdi, comme vous avez dit, n'a pas tout dirigé. C'est-à-dire, les choix d'Abbador, souvent, sont des choix extrêmement fins. C'est-à-dire, je pense Verdi et Abbado, je pense à Simone Boccanegra, plutôt. C'est-à-dire,
Boccanegra et Falstaff, c'est
oui,
les deux,
voilà,
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 c'est les deux
voilà, c'est
génies.
plutôt ça. Alors, je peux comprendre que Puccini, peut-être, après, je ne le sais pas, je ne veux pas dire ça de façon certaine, mais j'ai l'impression chez lui qu'il y a une recherche de quelque chose qui peut-être ne se marie pas tout à fait avec cette espèce de extra ouverture italienne de déjà on dirait de Mascagni par exemple Leoncavallo, mais même peut-être pour sa sensibilité Puccini était aussi un peu de l'autre côté de la voilà de la gamme.
J'ai choisi Rigoletto, Le Roi s'amuse, Victor Hugo,
Oui.
puisque Rani, vous êtes compositeur, et demain à 21h, vous dirigerez, vous donnerez même en création mondiale le prélude de votre opéra Notre-Dame de Paris.
C'est vrai.
Alors Jean-Jacques écrit au sujet de ce prélude, c'est une musique qui ose la tonalité, qui ose l'émotion. Vous osez tout.
Oui, je trouve ça, c'est vrai et c'est triste. Peut-être qu'on vive dans une époque où écrire de la musique tonale, ça doit être un acte courageux. Disons que écrire de la musique tonale, ou écrire dans les conventions, ou écrire de la musique qui est liée de façon étroite à tout ce qui est classique, sans être une reproduction de quelque chose. Pour moi, c'est un acte de sincérité plutôt que. Mais je suis d'accord avec Jean-Claude pour dire que c'est courageux dans le sens que quand vous. Même quand. C'est-à-dire les gens qui ont écouté ça, sur lequel j'ai joué peut-être des morceaux, ils m'ont dit, ah, c'est magnifique, mais tu sais que ça va pas être accepté parce que c'est pas la musique qu'on écrit aujourd'hui. Alors j'ai dit, bon, j'espère bien que c'est la musique qu'on va écrire demain. Et puis, c'est pas parce que, vous savez, j'ai une admiration énorme pour tout ce qui a été fait pendant le XXe siècle, et qui, dans beaucoup de sens, issu aussi de Debussy, par exemple. Mais après, il y a déjà la sensibilité personnelle. Moi, je suis quelqu'un de très classique dans mes goûts musicaux, dans mes goûts littéraires, et je pense aussi que l'opéra. Mérite de l'opéra dans le sens de l'opéra, pour moi c'est l'opéra verdien. Pour moi c'est le moment où l'opéra est arrivé à une espèce de forme parfaite. Après ça ne veut pas dire que les dialogues des Carmélites que j'ai dirigés cette année ou que Wozzeck ce n'est pas de l'opéra. Il faut voir, est-ce qu'on a besoin de définir ce que c'est qu'un opéra? Je ne sais pas. Ce n'est pas important. Moi je peux parler pour moi-même et que pour moi-même. Pour moi, l'opéra verdien, qui a eu peut-être une espèce de continuation avec Puccini, même si déjà le discours chez Puccini, que j'espère tout le monde sait, c'est un des compositeurs que j'adore. Et là, le discours est déjà beaucoup moins élevé, c'est-à-dire chez Puccini, il n'y a pas la prétention de parler de valeurs, il y a la volonté de communiquer une histoire personnelle, d'émouvoir, de faire pleurer. Et c'est le meilleur dans l'histoire pour le faire. Et moi, je l'adore. J'ai revisité Torre del Lago il y a un mois. Ça m'a énormément ému. Et d'ailleurs, Suor Angelica, c'est le premier opéra que j'ai dirigé. C'est pour dire que je ne dirai jamais rien de mauvais de Puccini. Mais je m'identifie beaucoup, et ça nous ramène aussi vers Hugo, avec la volonté de Verdi, qui est d'ailleurs aussi la volonté de Beethoven. Dont j'ai entendu maintenant la générale avec l'empereur et la septième symphonie qui sera donnée ce soir. Il y a une volonté de parler de valeurs, de parler de la société, de rêver d'un monde meilleur. Ce n'est pas simplement l'idée d'émouvoir. La Traviata, ce n'est pas juste faire pleurer les gens. C'est, je pense, l'artiste. comme moi je le comprends, et je parle maintenant du créateur, qui est un terme que j'aime pas, mais celui qui écrit, ce qu'il fait, il séduit. Il séduit le public, il fait oublier la réalité, il la change pour une autre réalité, parce que c'est dans cette autre réalité qu'il peut vraiment parler de beaucoup de problèmes, que si l'on parlait directement dans la conscience quotidienne, les gens n'écouteraient pas. Voilà. Ça, les Grecs l'ont déjà compris, parce qu'on sait bien que dans le théâtre grec, une fois, il y avait un écrivain qui a présenté une pièce qui parlait d'une actualité, c'est-à-dire de la guerre actuelle. Il a été presque... Il a failli d'être banni d'Athènes. Parce que c'est trop... Il n'y avait pas de perspective. Alors, si on prend Notre-Dame de Paris, on est dans un autre monde, depuis le prélude. Tout le monde oublie tout. Et là, on peut parler du rejet, du différent, de l'étranger, de l'abus du pouvoir pour les intérêts personnels, et de la cruauté, et tout ça. Et je pense que c'est ce qui est pour moi intéressant, et c'est pour ça que pour moi, Verdi est au-dessus de tous les autres compositeurs, et Wagner aussi, à sa manière, parce qu'il nous parle de ça. Même dans Falstaff, il parle de ça. Voilà. Et moi, j'ai envie de parler, et j'ai envie que les gens m'écoutent, et j'ai envie que les gens me comprennent. Et c'est pour ça que j'écris cette musique. C'est toujours facile, dès que quelque chose est beau, de dire que ça n'a aucune valeur. Ok, je peux l'accepter, c'est comme Puccini, le discours qu'on a fait tout à l'heure. Mais je pense que quand on est sincère et quand on cherche de se communiquer, moi je pense dans la musique, si je présente Esmeralda, je vais la présenter avec une belle mélodie en ut majeur. Si je présente la scène de tentative de viol dans la cathédrale, je vais le faire différemment. Et si j'ai besoin, je vais utiliser la polytonalité. Mais il faut que ce soit justifié et il faut que ce soit communicatif. Voilà.
On va écouter un court extrait de ce prélude dont vous donnerez la création mondiale demain. Thank you. un extrait du prélude de Notre-Dame de Paris de Rani Calderon, opéra qui est en cours d'écriture. En tout cas, le prélude est écrit et sera donné en création mondiale demain sous votre direction, Rani, avec l'Orchestre National Philharmonique de Russie. Et manifestement, ce Notre-Dame de Paris, c'est un manifeste pour vous.
Oui, c'est-à-dire, moi, comme j'ai dit avant, j'ai envie de parler et des sujets du roman, c'est-à-dire des thèmes sociaux que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et puis, j'ai envie aussi de montrer qu'il est possible aujourd'hui, et pas seulement possible, qu'il est important, qu'il est nécessaire d'écrire un opéra qui soit dans la tradition de l'opéra du 19e siècle, qui a abouti avec Verdi, écrire dans les conventions sans être conventionnel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mêler les deux choses. Beethoven même, qui est considéré le plus grand innovateur de l'histoire de la musique classique, n'a jamais rien inventé. Moi, je me souviens, j'ai joué toutes les sonates de Beethoven dans des concerts où j'ai expliqué les sonates. Il prenait toujours des choses qui existaient, il les utilisait de façon complètement insolite. Mais il n'a rien inventé. Peut-être le chœur dans la 9e symphonie, peut-être. Alors il a pris le chœur de l'oratorio ou bien de l'opéra et il l'a mis dans la symphonie, il n'a pas inventé le chœur. Vous voyez, il a su, et ça c'est vraiment la composition, c'est-à-dire savoir prendre des éléments comme le début de la sonate en ré mineur, le récitatif. Ben, le récitatif existait, mais il n'existait pas dans la sonate au piano. C'est ça qui est intéressant. Et c'est comme ça qu'on fait du progrès, à mon avis. Après, je dis encore une fois, chacun à sa manière. Moi, je ne parle pas des autres, je parle de moi-même. Moi, je crois que c'est possible. Je crois que c'est important. J'en ai envie. Et beaucoup de gens que je connais, artistes et publics, je ne suis pas le seul.
Merci Rani Calderon d'être passé ce micro d'Accent 4. On va se quitter en écoutant une autre ouverture, Les Noces de Figaro, Mozart, Claudio Abbado. Et Mozart sera aussi au programme de votre concert de demain puisque vous accompagnerez Sharon Kam dans le sublime concerto pour clarinette. Écoutons cette ouverture.
Thank you.
Voilà, c'est avec cette ouverture des Noces de Figaro de Mozart, dirigée par Claudio Abbado et l'Orchestre Philharmonique de Berne, que se referme ce journal du Festival de Colmar. Merci Rani Calderon d'être passé par ce micro.
Merci beaucoup.
Merci Jean-Jacques. Nous, on se retrouvera probablement l'année prochaine pour la 32e édition du Festival. Et pardon ?
Et tous les matins.
Bien sûr. Merci à Maxime d'avoir réalisé cette émission. Demain, mes invités seront au nombre de 4. Puisqu'il s'agit des quatre dames du quatuor Aquilone.
Opus, Festival international de musique de Colmar. Hommage à Claudio Abbado. Une émission d'Accent 4 avec le soutien du CIC Est, d'Arpège Armand Meyer et de l'hôtel Le Maréchal de Colmar.